gris du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Est-ce parce qu'il côtoie la mort au quotidien à titre de pathologiste ou au contraire parce que les arts, la musique, la peinture ou la littérature apparaissent le pain de vie que notre invité questionne sans cesse le sens de toute chose? Il se définit lui-même comme un être inquiet, car au gré du temps, c'est bien de cela qu'il s'agit, une inquiétude qui se promène entre deux pôles, celui de la connaissance et celui de la réflexion. On poursuit cette semaine notre entretien avec François Millette. Bonjour.
Bonjour.
Pourrait-on dire, en empruntant le titre de l'œuvre célèbre de Dostoïevski, que vous vous promenez aussi entre les pôles du crime et du châtiment? Crime de ne pas pouvoir, faute de temps, embrasser toute la connaissance, et châtiment d'avoir à lutter constamment contre l'ineptie d'un monde imparfait.
Non. Tout simplement, je vous dirais non. Je me sens pas... L'inquiétude, c'est pas une question de culpabilité ou de crime. C'est une question de...
Mais quand
peut-être
je dis,
une question d'amour, au fond. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire être inquiet? Ça veut dire... Surtout dans le monde où nous vivons, vous et moi, là, je veux dire, on n'est pas en Syrie, là, on n'est pas dans des pays en guerre, on n'est pas dans des dictatures, on est quand même, reconnaissons-le, extraordinairement paisible dans notre vie. Et puis, on devrait être tout le temps heureux. En fait, on n'a aucune raison. C'est presque criminel de ne pas être heureux, d'être inquiet.
Oui.
Pourquoi on est inquiet? Peut-être parce que le bonheur lui-même, parce que la notion de bonheur, c'est une notion qui nous est un peu étrangère et qui est peut-être utopique. Il ne faut pas confondre le bonheur avec le plaisir puis la satisfaction des plaisirs, hein, des joies. Le bonheur devrait être un état durable. Et quand on est bien, quand on est heureux, quand on est en paix, quand on est en harmonie, la question qui nous vient toujours, c'est « Mon Dieu, pourvu que ça dure! Hein? » Pourvu que ça dure! Donc, on n'échappe pas vraiment à l'inquiétude. Même quand on est dans la paix, même quand on est dans le bonheur. La plus grande chose, la chose la plus difficile, c'est de se libérer de cette appréhension du futur ou de ce regret du passé pour vivre dans le présent. Ça, c'est facile à dire. Ah, il faut vivre dans le présent. Tout le monde dit ça. Hein? Il faut vivre dans le présent. Qui peut dire « je vis dans le présent » Qui peut le dire vraiment? Alors, c'est dans ce sens-là que l'inquiétude...
Mais l'intensité du moment... Le moment que nous vivons en ce moment est un moment intense, c'est un moment merveilleux, c'en est un moment de bonheur.
Oui.
Celui que nous partageons avec l'auditoire, c'en est un moment
absolument,
de bonheur.
Absolument. Et curieusement, il nous échappe à mesure que nous le vivons.
Absolument.
Donc, c'est toujours comme tenir de l'eau dans ses mains. Hein? Ça s'échappe entre les doigts. Bon.
Mais c'est
rafraîchissant. Faut faire abstraction. Et quand je dis que je suis inquiet ou quand je parle d'inquiétude, c'est pas pour dire « Ah, oh, je suis inquiet, c'est correct, je vais rester inquiet. » Je veux dire, c'est comme une espèce de sort qu'on partage tous, un peu.
Mais le sens de ma question était plus dans celui de cette inquiétude qui germe parce que l'insuffisance du temps que j'aurai à vouloir tout connaître. Parce qu'il y a une soif de vouloir connaître. Pas connaître pour exercer un pouvoir, mais connaître pour mieux...
Moi, je dirais que la connaissance que laquelle j'espérais atteindre, que j'espérais atteindre, c'est pas la connaissance de tout. C'est la connaissance de moi-même, la plus complète, la meilleure. OK? J'ai une vie pour le faire.
Oui.
Et quand ma vie va être terminée, je vais avoir atteint, veux pas, inexorablement, inévitablement, le sommet de la connaissance de moi-même que je pourrais atteindre. OK?
Mais on apprend à se connaître à travers les autres.
Oui, évidemment, et à travers ses expériences, et à travers tout ça. Mais la connaissance pure, la connaissance pour la connaissance, je ne suis pas sûr qu'il ne faut pas être un peu plus critique de ça. Hein? Il y a des philosophes qui disent « Ah, le sage devrait choisir ce qu'il ne veut pas savoir ». Hein? Il y a peut-être des choses qu'il est préférable de ne pas savoir.
Malgré ce que vous dites, François, vous êtes l'incarnation de quelqu'un qui, tout au cours de sa vie, a voulu connaître, qui a cette curiosité instinctive, peut-être, de vouloir connaître les grands auteurs, connaître le métier que vous exercez, apprendre la musique. Il y a une recherche constante qui fait que vous apprenez à vous connaître à travers tout cela, mais cette soif de connaissance, elle est toujours très présente. Et en même temps, par vos propos, vous jetez un regard très critique sur le monde, sur la critisation des masses, par exemple, au plan médiatique ou sur l'exercice du travail exercé par les gens qui vous entourent, où vous pouvez être très sévère parfois, non?
Critique? Oui, mais certainement. Mais pas nécessairement accusateur. Moi, je pense que la plupart des gens veulent trouver... La plupart des gens veulent s'améliorer. La très grande majorité, c'est pas la plupart des gens, la très, très grande majorité des gens. Bien, le problème, c'est comment être... Au fond, c'est de se connaître soi-même. C'est ça, l'idée, c'est de connaître, d'apprendre, de découvrir, pour se découvrir soi-même. Et s'insérer, encore une fois, le mieux possible dans son environnement, qu'il soit l'environnement social, l'environnement physique, l'environnement...
Et c'est ce qui donne de la vie à la vie?
C'est la vie. C'est ça, la vie. Puis, je veux dire, devenir ce qu'on est. Moi, je pense que je suis très fataliste, d'une certaine façon. Oui. Je suis ce que je suis de naissance, et je vis dans le pays qui m'a été donné, à l'époque qui m'a été donné. OK? Tout ça, c'est déterminé. Je n'ai rien choisi de ça. OK? La seule liberté qui me reste, la seule grandeur qui me reste pour être humain, pour devenir ce que je suis, c'est d'en prendre conscience.
Et d'intervenir sur cette réalité qui est la vôtre, parce que vous avez ce pouvoir d'intervenir sur... Hein, on dit un vol de papillon peut créer l'ouragan.
Mais c'est inévitable. Oui. En fait, que je fasse quoi que ce soit.
Oui.
Puis, vous voyez, c'est serment. Hein, oui. Si le papillon ne s'envole pas, ça va avoir aussi des conséquences. Thank you. Alors ça, c'est l'inquiétude, hein? Je m'en vais à gauche, je m'en vais à droite, où est-ce que je m'en vais, d'où je viens, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, c'est sûr que c'est la vie. Hein? Je veux dire, la vie, c'est du mouvement, c'est agir. Je veux dire, on parlait de pouvoir la semaine dernière, le pouvoir, c'est toujours, c'est inévitable. Hein? Je veux dire, le pissenlit, il y a une lutte de pouvoir avec le gazon dans mon terrain. Là. Je veux dire, mais il y a toujours un équilibre qui finit par s'installer. Mais on peut pas échapper à la vie. Donc, au fond, peut-être que l'inquiétude, c'est une chose inévitable. Ben, on peut ne pas en faire une maladie, ne pas en faire un handicap, mm-hmm. être capable de
il ne faut
pas
que ça génère une angoisse.
Non. Puis si ça génère une angoisse, il faut apprendre à la gérer. C'est structurant aussi de gérer l'angoisse.
Oui. L'ambiguïté du mot pouvoir. Quelques réflexions comme ça. Le pouvoir, c'est d'agir souvent pour se faire obéir, ou au contraire, ça peut être agir pour maîtriser, pour être efficace. C'est une force qui parfois s'exerce par la violence, vous le reconnaîtrez, ou parfois c'est une force qui s'y instaure le droit et qui est essentielle pour qu'il y ait de la cohérence. Alors, le pouvoir s'exerce, et vous me direz ce que vous pensez de cela, en principe par l'autorité de la force ou de la fonction. Il faut qu'il y ait ce pouvoir qui s'exerce entre les humains pour qu'il y ait de la cohérence.
Ma conception du pouvoir est beaucoup plus large que ça, je pense. Dans le sens que, OK, on parle de pouvoir dans un but donné, OK? À mon avis, le pouvoir, c'est tout simplement le résultat de l'existence. Hein? C'est quoi la condition essentielle pour agir? Hein? Mm-hmm. La condition essentielle pour agir, c'est une évidence, c'est une lapalissade. Pour agir, il faut être. OK? Si vous n'êtes pas, si vous n'existez pas, vous ne pouvez pas agir. Okay? Mais à partir du moment où vous agissez, votre action s'exerce dans un milieu, s'exerce sur un environnement qui peut être vivant ou non, mais qui s'exerce.
Donc, vous exercez
votre existence en intervenant, en interagissant avec d'autres. Ces pouvoirs-là, on les appelle pouvoir, mais on a tendance à les connoter avec l'autorité. Mais ce n'est pas nécessairement l'autorité. Hein? Encore une fois, Dostoïevski disait, je veux dire, tout le monde est coupable de tout. Je veux dire, le pouvoir exercé implique un pouvoir consenti. Mm-hmm. Hein? C'est Prévert qui disait, Hitler, sans les Hitlériens, rien. Hein? C'est assez intéressant. Je veux dire, on avait posé la question à Hitler, apparemment, en 1938. Un journaliste américain avait demandé à Hitler qu'est-ce qui passait du commentaire qui était fait à son égard, à savoir qu'il était un dictateur. Puis il avait répondu la chose, apparemment, je ne suis pas un historien, mais ça m'avait assez frappé, cette réponse-là qu'il avait faite. Mais non, je ne suis pas un dictateur, ça n'a strictement rien à voir avec ma volonté personnelle. Ça a à voir avec l'état des choses, ça a à voir avec ma nature, ça a à voir... Bon, mm-hmm. Je veux dire, je ne suis pas en train de justifier Hitler. Je suis juste en train de dire que le pouvoir, c'est une chose... C'est le dénominateur commun. Moi, j'ai beau réfléchir, il n'y a pas que du pouvoir. Mais il y a du pouvoir partout. OK? Tous les nombres pairs sont divisibles par 2. Ça ne veut pas dire que tous les nombres pairs sont égaux à 2. Mais 2... peut les diviser tous. Mm-hmm. Donc, le pouvoir de séduction, le pouvoir de la force, le pouvoir de résistance.
Tout à fait.
Bon, mais tous ces pouvoirs-là sont l'expression même de l'existence. Qu'est-ce que ça donne de se dire ça? Qu'est-ce que ça donne de penser ça? Ben, je me suis jamais posé la question pour savoir ce que ça donnait. Ce que je constate, c'est que au quotidien, dans toutes les relations que je vois, je reconnais des éléments de pouvoir.
Mais
qui sont parfois positifs, oui. Parfois constructifs.
Mais
parfois
c'est là l'ambiguïté, parce qu'on pourrait presque hiérarchiser aussi les pouvoirs. Pensons à la chanson de Ferrat, « C'est beau la vie », le pouvoir encore regarder, pouvoir encore sentir une fleur. C'est un pouvoir, ça aussi. C'est un pouvoir merveilleux. C'est un pouvoir que moi, comme individu qui prend conscience que la vie est encore là, je peux me permettre de la saisir avec mes mains, avec mon cœur, avec ma tête aussi.
Oui, mais voyez-vous, si vous ne le pouviez pas, je ne pourrais pas vous en convaincre. Absolument. Il n'y a pas d'impératif au verbe pouvoir. Hein? C'est une chose assez étonnante.
Oui.
Je ne peux pas dire « peut ». Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Puis donc, le pouvoir, c'est l'expression d'une certaine existence. On ne peut pas ordonner le pouvoir. On ne peut pas forcer quelqu'un à pouvoir s'il ne peut pas. On peut essayer de l'aider à développer son pouvoir.
Mais on sait...
Mais curieusement, parce que le verbe « pouvoir » implique la puissance.
Voilà.
Mais on ne peut pas imposer la puissance. On ne peut pas ordonner.
Vous dites que le pouvoir implique la puissance. On sait que l'histoire nous le rappelle constamment. Le pouvoir s'est exercé à travers l'histoire de l'être humain de façon parfois machiavélique, de façon terrible, aux dépens d'autres humains. Il y a des humains qui se sont appropriés,
encore,
et encore aujourd'hui.
Ça se fait encore, oui. Ça se fait encore.
Ce type de pouvoir...
Ce type de pouvoir, on peut dire que c'est une perversion du pouvoir, mais je veux dire, le pouvoir lui-même
oui.
peut pas être... ce que je dis, c'est que le pouvoir lui-même peut pas être aboli, peut pas être annihilé. Le pouvoir, il existe. Il faut apprendre à le gérer. Il faut apprendre en soi-même, avec les autres, à l'assumer, à le gérer, à le subir aussi. Parce qu'on doit subir le pouvoir des autres, même les dictateurs. Ben, c'est un peu ce qu'Hitler voulait dire. Peut-être ça n'a rien à voir avec ma volonté personnelle. Je suis emporté par une vague. Je veux dire, est-ce qu'on peut accuser la figure de proue de la direction que prend le bateau? C'est une image un peu curieuse, mais il reste qu'il faut se méfier des apparences en ce qui concerne
mais
le pouvoir.
Mais il faut dénoncer les abus de pouvoir.
Évidemment. Plus que les dénoncer, peut-être même les combattre.
Oui.
Peut-être même les combattre. Sans doute, pas peut-être, sans doute les combattre.
Avec mais, souvent la force de l'exercice d'un autre pouvoir.
Oui, dont on dispose ou dont on ne dispose pas.
Voilà.
Hein, moi, je me dis souvent, là, mettons, si j'étais à la guerre, est-ce que je serais un lâche ou un héros? Il n'y a aucune façon de répondre à cette question-là tant que je ne serai pas à la guerre. Mais j'espère que je n'y serai jamais.
Curieusement, ça me rappelle, récemment, le père Lacroix est décédé,
oui.
Benoît Lacroix.
Oui.
Et on relatait dans les différents reportages ou hommages qu'on rendait au père Lacroix qu'il avait parfois des réflexions étonnantes. Je pense à celle qu'il avait eue où on lui posait la question sur Nagasaki. Comment expliquer Nagasaki? Et tout ce qu'il retenait, c'est que le lendemain de l'envoi de la bombe nucléaire, le titre du journal de Nagasaki, c'était « Aujourd'hui, le soleil s'est levé à 8h12
mm-hmm. ».
Il y avait quelque chose, il y avait comme malgré tout une espérance dans ce propos, dans ce titre.
Mais là, vous parlez de Nagasaki, vous parlez de la
deuxième guerre.
De la deuxième bombe.
Oui, de la deuxième bombe, pas celle d'Hiroshima.
Le titre de la nouvelle du journal de Nagasaki, après l'explosion d'Hiroshima ou de Nagasaki?
De Nagasaki. On titrait « Le soleil oui. s'est levé aujourd'hui à 8h12 ».
Oui, on peut voir ça comme une expression d'espoir, mais on peut voir ça aussi comme une expression d'inconscience et de négation. Et de dire non, on refuse d'admettre qu'on vient de... Hein? C'est facile de... Je ne sais pas trop quoi répondre. Je ne connaissais pas cette... J'ai jamais pensé à cette association-là entre les deux.
Mais moi, ma compréhension, elle était à ce niveau-là. C'est-à-dire que malgré tout, malgré les morts, c'est horrible.
Oui,
mais il y a encore la vie. La vie est encore présente.
Oui. Mais tu sais, on pourrait aussi dire, même si toute la planète explosait,
l'univers
continuerait d'exister.
L'univers serait toujours là.
Et puis le soleil se fout éperdument de mes problèmes d'hypothèque. Hein? Puis j'ai déjà vu aussi, c'est ça aussi, on revient à ce qu'on avait au début de notre entretien la semaine dernière, que, je veux dire, la capacité de s'émerveiller, si je me rappelle bien, la capacité de s'émerveiller. Mais je veux dire... de s'émerveiller d'un lever de soleil. Je me souviens, il y a quelques années, on parlait beaucoup de la dette. On en parle encore beaucoup, mais à cette époque-là, on parlait presque rien de ça, même pendant la nuit de Noël. Puis, puis il y avait un météorite qui passait dans le ciel. Puis je me souviens que je marchais avec mon frère dans la rue, puis on voyait le météorite dans le ciel, la comète. Je me dis, ah, si ça tombait sur nous, le problème de la dette serait réglé. Hein? Instantanément. Mettre en perspective les choses, c'est peut-être important aussi. Puis reconnaître, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reconnaître qu'il y a des choses qui sont horribles, qui sont inadmissibles. Mais
parmi les beautés du monde et de l'univers, une pièce que je vais vous faire découvrir, le plus célèbre violoncelliste russe du 19e siècle avait pour nom Karl Yulievitch Davidov. Il a vécu de 1838 à 1889. Tchaïkovski le surnommait le tsar des violoncellistes. Sa réputation était telle qu'en 1876, il devint directeur du conservatoire de Saint-Pétersbourg, alors que Tchaïkovski et lui étaient tous deux candidats pour le poste. Il a écrit 4 concertos pour violoncelle. En 1876, un mécène lui fit don d'un Stradivarius, aujourd'hui connu comme le Davidoff, et qui fut celui de Jacqueline Dupré, et qui est aujourd'hui joué par Yo-Yo Ma. On écoute le deuxième mouvement marqué Andante de son concerto pour violoncelle numéro 2 en la mineure opus 14, interprété ici par l'orchestre symphonique Davidoff, dirigé par Constantin Krimets et Marina Tarasova au violoncelle.
Thank you.